9h-11h, Wendy Bouchard.
Ravi, chers amis, d'entamer une nouvelle semaine en votre compagnie avec un tour de la question un peu particulier ce lundi qui concerne notre alimentation. Bonjour, chère Julie.
Bonjour, Wendy.
Vos témoignages seront les bienvenus de rigueur. On vous attendait maintenant. Le standard est ouvert.
Le 39-21.
Avec cette étude préoccupante publiée il y a quelques jours, un décès sur cinq dans le monde serait lié à ce qu'on appelle la malbouffe. Ce que nous mangeons déterminerait donc très largement notre espérance de vie. Ce n'est pas nouveau, mais c'est approfondi, disons, avec des produits trop salés, trop sucrés, des habitudes alimentaires aussi qui font qu'on se remplit davantage aujourd'hui qu'on ne se nourrit. Alors comment sortir de ces travers et manger sainement? Nos invités vont vous répondre, spécialistes du terroir, de la nutrition, des habitudes aussi, du comportement des Français. Certains s'interrogent et ont fait des choix. C'est le cas du journaliste Hugo Clément qui nous rejoindra, qui se raconte dans son livre « Comment j'ai arrêté de manger les animaux » et de Katia Raffarin qui enquête aussi sur ce phénomène de végétariens multiples de sociétés. Au secours, mon ado est végétarien, c'est ce qu'elle écrit. 2 heures avec vous sur toutes ces questions, vos témoignages. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités en studio, Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Bonjour Pascale Hébel. Perico Légas, rédacteur en chef à Marianne, chroniqueur gastronomique et co-auteur du panier à l'assiette chez Solar. Bonjour Perico. Avec Arnaud Cocolle également, médecin nutritionniste et praticien attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes là tous les trois avant que le plateau ne s'élargisse dans une petite heure pour revenir d'abord sur ce constat en apparence catastrophique, même si la France s'en sort bien. On va voir que elle fait partie des meilleurs élèves derrière Israël en l'occurrence. Un décès sur cinq dans le monde dû à une mauvaise alimentation. 11 millions de décès entre 1990 et 2017 directement imputables à la malbouffe avec des recensements de morts de maladies cardiovasculaires, cancers ou diabète. On le sait, mais on le redit, Perico Légas, le sucre et le gras restent donc deux ennemis majeurs de nos organismes et cette étude le confirme de nouveau.
C'est surtout pas normal. On est dans une période d'information, de communication. On n'a jamais eu autant de bons nutritionnistes, de bons médecins, le corps médical. Enfin bon, voilà. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller, peut-être sociétal. C'est-à-dire, on nous a tellement dit, depuis si longtemps, l'industrie agroalimentaire a pris votre santé en main, tout est bon, on n'a jamais aussi bien mangé qu'aujourd'hui, les produits sont sains, tout est vérifié, vous pouvez y aller tranquillement. Et puis la publicité alimentaire, de véritables propagandes qui vous incitent à consommer des produits qui donnent du plaisir gustatif. Donc il y a eu un laisser-aller, une déprise de conscience totale des masses, on peut parler de ça. Et puis finalement on disait, mais après tout, on a jamais aussi bien mangé, on ne meurt plus des maladies anciennes, de contamination, de nourriture pas fraîche, bactérienne, voilà. Alors c'est vrai, on n'a plus le poison, mais le contre-poison est devenu tellement virulent qu'on en meurt. Et surtout, l'excès et l'abus qui ont été, alors qu'à un moment donné, je me souviens, on avait le carême, on avait des restrictions. Aujourd'hui, voilà, allez-y, consommez de plus en plus, tout ça va bien, c'est parfaitement réalisé, c'est parfaitement fabriqué, il n'y a plus de danger. Conséquence, malgré qu'on ait alerté, Arnaud Cocolle et moi, on sait quand même qu'on a dit, mais non, c'est pas vrai. Et encore aujourd'hui, je vois le livre de mes amis Luc Ferry et Nicolas Bouzou qui disent, arrêtons le délire, on n'a jamais aussi bien mangé, c'est pas vrai. Eh ben voilà, on a des statistiques, voilà, les chiffres que vous donnez sont absolument, non seulement ils sont stupéfiants, mais ils sont scandaleux quelque part.
Oui, ils sont un peu rassurants, on va dire quand même pour la France, parce qu'elle est
belle.
Oui,
on est quand même troisième, l'Espagne et l'Israël sont devant nous. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qui nous protège, c'est notre diversité alimentaire. Et simplement dans les résultats de l'ANSET, hein, c'est qu'avant tout, c'est des manques. Et c'est pas le surexcès d'alimentation qui tue. C'est des manques en calcium, c'est des manques en fibres, c'est des manques en fruits, c'est des manques en légumes. Et donc nous, on a de la chance de pouvoir avoir accès à ces produits-là, même si en France, on ne consomme pas assez de fibres, de céréales complètes, hein, en fait, de ce qui pourrait être dans du pain complet. Et ce qu'il faut noter simplement, c'est que notre modèle alimentaire qui nous a beaucoup protégés, avec l'évolution des modes de vie, est quand même en train d'évoluer vers moins de légumes, moins de fruits, et c'est là qu'il va sans doute y avoir des problèmes. Ce qu'on note, c'est que les pays où on meurt le plus de ces maladies nutritionnelles, c'est avant tout dans les pays d'Asie, et c'est lié au fait qu'on mange à l'extérieur. 80% des repas en Malaisie sont pris en dehors de chez soi, en France, c'est que 20%. Mais ça augmente, c'est-à-dire qu'avec la reprise économique, l'évolution des modes de vie, on est de plus en plus en ville, on mange de plus en plus à l'extérieur, et c'est à l'extérieur de chez soi que finalement on ne contrôle pas la qualité nutritionnelle et c'est sans doute là qu'il y aura des problèmes.
Réaction du médecin nutritionniste à cette étude qui ne vous étonne pas non plus, Arnaud Cocolle, le sucre et le gras ne sont pas plus menaçants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier, simplement il y a à se laisser aller et vous suivez là-dessus Perico sur
oui,
ce constat également.
Bien sûr, mais pour moi le tueur numéro un c'est le sel. Et ce qui ressort d'ailleurs dans l'étude, parce que c'est pointé, donc le sel, c'est actuellement, on est en train de complètement dériver là-dessus.
Et le sel caché en particulier ?
Le sel caché, oui. Complètement. Donc il y a bon nombre de gens qui ignorent effectivement qu'il y a du sel, par exemple le pain est très riche en sel, et il faut faire des efforts pour diminuer notre teneur en sel dans le pain quotidien. Donc l'étude est très intéressante parce que c'est une étude sur 17 ans, comme vous le disiez, avec plus de 190 pays qui ont été étudiés. Donc c'est vraiment une étude, une cohorte extrêmement importante. Donc on arrive à tirer des directives, un peu des orientations. Et ce qu'on disait à l'instant, c'est ça qui est intéressant, nous sommes en train de muter actuellement. C'est-à-dire notre société, notre modèle traditionnel, notre patrimoine alimentaire, gastronomique, est en train de muter avec la nouvelle génération, ce qu'on appelle les millennials.
Oui.
Donc cette nouvelle génération issue de l'an 2000, qui ne se comporte plus du tout de la même manière que la génération de l'après-guerre. Donc l'après-guerre, c'était il faut manger de la viande pour être fort comme un bœuf, etc. Après, maintenant, c'est le développement du snacking, développement de toutes les sociétés qui vous livrent à domicile ou qui vous livrent à l'extérieur avec les camions qui roulent, etc. Vous avez la street food. Donc ça, c'est un problème actuellement. C'est qu'est-ce qui va arriver ? Et je pense qu'actuellement, la nouvelle génération est quand même très en danger. Et j'ai évoqué aussi le problème, par exemple, des jeunes étudiants qui ont eu une diminution de leur APL. Et quelle est la variable d'ajustement ? C'est généralement l'alimentation.
C'est le budget alimentaire, oui. C'est intéressant parce qu'on en parlera au gré de cette émission. Jeune génération qui est à la fois en danger, mais qui est aussi lanceur d'alerte, Perico Legas, très clairement.
Oui, alors parce que c'est aussi... les jeunes sont attentifs. Donc il y a les insouciants et il y a les vigilants. Mon drame est que je vois des gens qui, chaque jour, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, répartissent le budget. Hein, ma devise, c'est moins mais mieux. À la fin du mois, on n'aura pas dépensé un centime, on aura réduit la quantité pour améliorer la qualité, et ça se passe très bien. Et vous avez quand même une grande partie de la masse, je m'exprime comme ça, qui se dit « mais non, d'abord, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens ». Je continue à manger comme ça, j'ai jamais vu mourir personne dans la rue, c'est pas une rafale de mitrailleuse, la malbouffe qui vous tue. C'est ça le problème. Le vrai drame aussi, c'est que, et même si les industriels ont fait beaucoup d'efforts, longtemps, pour créer des addictions, c'est-à-dire vendre plus, sel et sucre ont été des éléments qui créent l'addiction.
Il faut se désintoxiquer aujourd'hui.
Voilà. Donc, que dans la malbouffe, il y avait un surplus de malbouffe qui était là pour conditionner les appétits et créer des réflexes de consommation à outrance, parce qu'on est dans une société où toujours la grande distribution. Il faut surproduire pour surconsommer, surconsommer pour surproduire, pour engendrer. Autrement dit, la financiarisation de notre alimentation, quand des gens se sont rendus compte que le fait de nourrir, ça pouvait engendrer un profit, on a une financiarisation de la consommation, sur lequel on revient. On attendait beaucoup des états généraux de l'alimentation. On n'a pas les résultats escomptés. Peu importe. À un moment donné, rendez-vous a été pris à l'échelle politique nationale, comme quoi il fallait faire attention, préserver nos agriculteurs et puis ensuite notre qualité alimentaire. Là, il y a une démarche qui est faite, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Comment la France se bat contre les risques de malbouffe et quels sont les principaux dangers auxquels s'exposent les Français en matière d'alimentation ? Vous avez commencé à y répondre, Arnaud Cocolle. Le sel caché en particulier. On fait le tour de cette question avec Perico Legas, Pascal Hébel, Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste. Et vos témoignages, n'hésitez pas dès maintenant au Standard d'Europe, hein, Julie.
On vous écoute au 39 21 50 centimes la minute.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question sur sur la malbouffe aujourd'hui. Wendy Bouchard, on est ensemble jusqu'à 11h. Hein, c'est une spéciale.
Spéciale parce que nous avons de plus en plus de plaidoyers pour une alimentation responsable. Et si vous permettez, chers amis, je vais vous citer Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ. Que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture. Ça doit vous faire réagir, cher docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, co-auteur de Dépolluer votre graisse interne aux éditions Albin Michel. Autre ouvrage que je vous recommande, c'est du panier à la l'assiette, alimentation, grande distribution, agriculture, pour en finir avec la malbouffe. On est dans le thème du jour, c'est votre ouvrage, Perico Légas, rédacteur en chef à Marianne. Et elle suit le comportement des Français, directrice du pôle consommation et entreprise du CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Pascal Hébel, on évoquait cette étude dans la revue médicale britannique The Lancet, 195 pays sondés, une grande cohorte, vous le disiez Arnaud Cocolle, un décès sur cinq est lié à la malbouffe dans le monde. Mais la France se classe troisième dans cette histoire, derrière l'Espagne, derrière Israël. Et c'est important de regarder les modes de vie justement de nos voisins. Pourquoi l'Espagne est en tête de ce classement? C'est
Israël.
L'Espagne d'abord, hein, je crois.
Bon, oui, peu importe l'Espagne et Israël, ce sont deux pays
avant la France,
on surveille le contenu de son assiette. Et je suis étonné que l'Italie ne soit pas aussi...
Parce dans
que
ce trio de tête, oui.
Oui, ce sont des pays, alors ce sont des pays latins, à patrimoine agricole assez riche.
Oui.
Et la société espagnole que je connais bien, les revenus les plus modestes, ça évolue, hélas, parce que la grande distribution s'installe. Mais une mère de famille au SMIC n'a pas idée, ou en Italie ou en Espagne, d'aller chercher un produit industriel dans une grande surface. On fait la cuisine à la maison.
Mmh.
Voilà, et on va en commerce de proximité et on discute avec le commerçant, même les gens, les revenus les plus modestes, la provenance du poisson, est-ce qu'il est frais, voilà. Donc comme on fait la cuisine à la maison, on est beaucoup plus attentif et beaucoup plus soucieux à ce qu'on met dans son assiette. Israël, c'est un autre facteur, parce que...
Pays de désert, mais pays de soleil et de bons fruits et légumes
aussi. La cache-route, et c'est vrai pour le halal, ce sont des confessions qui imposent un système alimentaire, mais ce système alimentaire fut créé à l'époque, ne pas consommer de porc. Aujourd'hui, c'est devenu un paramètre religieux, c'est absurde. C'est que le sang du porc dans les pays chauds, quand il est dégradé, devient un poison violent.
Ouais.
Donc on a gardé, on a envie de leur dire...
Considération hygiéniste au départ.
Est-ce qu'on pourrait faire un Vatican II des nutritions confessionnelles pour dire qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut avaler. Vous pouvez manger du saucisson tranquillement, vous ne ferez pas offense à Dieu. Khalouf a bien le cochon a bien été... Voilà. Bon, c'est un grand débat. Je pense qu'il accompagnera l'évolution de nos rapports avec ça. En tout cas... Quand il y a souci alimentaire, quand il y a une consigne confessionnelle sur le contenu de l'assiette, et en Israël, la cache-route est très, très, très sévèrement suivie.
La cache-route,
c'est le fait de manger cachère.
Cachère, voilà.
Mais dans
ça,
le cachère,
oui.
Voilà, il y a le rituel religieux, mais il y a aussi la nature de l'aliment. Et, et évidemment, pour faire du cachère, il faut faire la cuisine à la maison. Et bien, dès qu'on se remet à cuisiner à la maison, et je suis sûr que la partie de la population française où la malbouffe est quand même très, très bien installée, sont les gens qui font la cuisine, ou qui, ce que je vois aujourd'hui, refont la cuisine. Et dès lors qu'on prépare, hein, l'alimentation des enfants, de la famille, de son mari, eh bien aujourd'hui, grâce aux informations qu'on a, on fait attention à ce qu'on met dans l'assiette.
Oui.
L'amélioration de la France, elle vient de là, parce que c'est aussi un pays où on mange très très mal. C'est le paradoxe français. C'est le pays où on mange le mieux du monde, mais aussi quelquefois le plus mal.
Voilà, Israël, Espagne, France dans ce trio de tête, vous aviez raison Julie, et merci d'avoir rappelé un petit peu les bases. Et c'est vrai que le retour de la cuisine à la maison, qui était finalement la cuisine aussi de nos aïeux, a du sens, Arnaud Cocolle. Là aujourd'hui on parle du bio, du retour aux bons produits, mais nous avons encore des grands-parents ou arrière-grands-parents qui se portent bien, parce que même s'ils n'avaient pas de moyens, ils se sont bien nourris.
Complètement. Ça, c'est important parce que la transmission a lieu le week-end, essentiellement maintenant, sur le fait de faire de la cuisine. En semaine, j'ai beaucoup de patients qui n'ont plus le temps de faire de la cuisine. Ils n'ont plus le temps, pourquoi? Parce qu'ils ont 3 heures de transport pour certains d'entre eux.
Mmh.
Donc, ils arrivent complètement fatigués. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple? C'est de prendre un plat qu'on réchauffe au micro-ondes.
Et le plat préparé est l'un des plus grands dangers. Hein.
Voilà, et on ne transmet pas à la génération future. Donc je pense que la transmission, et ça on est tous d'accord autour de la table, la transmission est un acte fondamental et fondateur de notre alimentation et de notre bien manger, de notre bonne santé.
Et on y revient hein, dans les comportements des Français que vous observez, Pascal Hébel.
Oui, donc ce qui se passe, c'est qu'on diminue les temps de repas, et ce qui a le premier disparu, c'est l'entrée.
Oui.
Et en fait, l'entrée, ça permettait d'avoir une crudité, et notamment d'ailleurs de faire des effets sur la satiété. On mangeait moins. Et en fait, c'est vraiment ça qui est en train de bouger, où on va prendre qu'un seul plat. Et ce plat-là, il va être plus dense nutritionnellement. Et ce qui augmente et qui va vers cette malbouffe, c'est ce qui est en croissance très forte, c'est sandwich et pizza, où finalement, on ne fait qu'un plat. Et c'est cette diversité-là qui fait qu'aujourd'hui, on va vers ces maladies qui sont en train de croître aussi.
Et
en
on s'attable moins.
On passe moins de temps. Et c'est vrai, c'est le fait d'être à table, de parler, de prendre du temps. Donc, on a nos déjeuners où on prend de moins en moins de temps, parce qu'en fait, on nous a fait réduire les temps, mais même à la cantine, les étudiants, on leur supprime le déjeuner parce qu'on met des cours à n'importe quelle heure. Et c'est vers ça qu'il faut lutter, parce que finalement, c'est cette transmission où si à l'école, on vous apprend à être à table et à manger et à prendre du temps, Eh bien, finalement, c'est ça qui va durer et qui va faire qu'on maintient notre modèle alimentaire.
Très juste, hein, de Coca-Cola avant une petite pause.
Oui, quand j'ai un patient, je reviens aux fondamentaux. Et l'un des fondamentaux, c'est de prendre du temps à table et d'enlever tous les distracteurs d'attention que sont les tablettes, etc., les écrans de télévision qui détournent l'attention et qui font qu'on ne mange plus en pleine conscience.
Et qu'on avale et qu'on se remplit,
et du coup,
je disais, plus qu'on...
Exactement, ouais. On devient des outre-mangeurs.
Ouais. Et donc la mastication aussi a un sens, hein, dans notre alimentation. Un tout petit mot avant la pause,
Un tout petit mot pour dire, on est troisième, très bien. La France est quand même le pays du monde, après les États-Unis, où le fast-food progresse de façon vertigineuse. Ouais. Et quand on en ouvre un, à nouveau, il y en a en permanence. Donc, il y a encore des gens qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas l'information. De temps en temps, c'est pas grave, un McDo, vous voyez. Mais il y a des gens qui l'ont comme alimentation de base, et ça, c'est nutritionnellement absolument catastrophique.
On n'est pas tous égaux, en effet, dans cette éducation à l'alimentation. Voilà pourquoi vous êtes là aussi, madame et messieurs. À tout de suite sur Europe 1 pour faire ce tour de la question sur la malbouffe et tout ce qui se cache derrière dans nos comportements aussi.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question, la suite, on parle de malbouffe. Y a-t-il urgence à modifier nos habitudes alimentaires, Wendy Bouchard?
Oui, il y a urgence et pourtant nous avons des campagnes régulières en France. Et la France, on le dit, est dans le trio de tête quand même des pays qui, en matière d'alimentation, éduquent mieux ou en tout cas encadrent leur comportement derrière Israël, derrière l'Espagne. Le Japon est après nous. On ne parle pas dans ce haut de classement du fameux régime crétois qui a été si à la mode, Arnaud Cocolle, comme médecin nutritionniste. Vous ne pouviez qu'applaudir justement à ce régime à base d'huile d'olive, de légumes.
Le régime crétois, historiquement, c'est Ansel Keys et c'est dans les années 50.
Oui.
Donc c'était une étude commanditée par Rockefeller Institute et ils avaient vu avec surprise que les Crétois avaient une espérance de vie en meilleure santé plus longue que les Grecs. Donc ça avait été la surprise. Donc après on a embrayé sur le régime crétois, mais malheureusement les Crétois, ils connaissent maintenant l'envahissement des fast-foods, etc.
Aussi, en Crète aussi.
Et les Crétois sont devenus parmi les plus obèses des Européens.
Ouais, on a vraiment colonisé et si mal colonisé la planète.
Crète, c'est la Grèce. La Grèce était en tête, hein, avec le Japon. Alors, régime crétois qui était la norme alimentaire de cette civilisation, la Méditerranée, les Japonais, c'est parce qu'on mange cru.
Oui.
Voilà. Et donc, manger cru est fondamental aujourd'hui, et surtout quand il y a des valeurs nutritionnelles dans les aliments. La Grèce, qui était championne parce que le régime crétois était un peu la norme, autant sur la métropole que sur l'île de Crète, où là, vraiment, c'était légumes, poissons grillés et huile d'olive, n'oublions pas, qui est un petit médicament. La crise économique est arrivée, entrée de la Grèce dans l'Europe, on a connu les drames de la Grèce, donc appauvrissement des moyens de consommation, qui dit appauvrissement, dit recours à l'agro-industrie pas chère et au fast-food. Et aujourd'hui, drame absolu, 44% des adolescents grecs sont en état d'obésité, des 12-18 ans, 44%, alors qu'ils étaient le symbole il y a encore 20 ans. Mmh. C'est vous dire que l'arrivée de la modernité, le modernisme en disant « vous avez une crise économique, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver des solutions pour manger pas cher, vite et rapide, sans que vous ayez à prélever dans le porte-monnaie ». Eh bien ça, c'est de la mort. C'est de la mort en branche, je veux dire, c'est de la mort en barre.
Voilà. Ouais, vous avez un adolescent sur trois qui est obèse aux États-Unis, il se casse 43e d'ailleurs, sur 195. Je les voyais plus bas, vous voyez, dans le classement Arnaud Cocolle, parce que les habitudes alimentaires s'enrayent là-bas aussi.
Mais il y a également le fait que tous ces pays deviennent urbains. Et le Grand Paris, par exemple, pour moi, m'inquiète beaucoup en tant que nutritionniste, parce que je pense que ça va amplifier l'obésité dans la région Île-de-France.
Mais lié à la street food, justement, au fait de manger mal, manger debout,
lié à l'éloignement des terres arables de plus en plus loin, parce que le Grand Paris, ça veut dire que la première terre cultivable va être au-delà de Rouen. Donc ça va être une catastrophe.
Mais ils nous remettent des potagers partout,
donc ça
regardez,
dans la mer,
il y a cette tendance.
Hein. C'est vrai, potager au cœur des villes, mais enfin, ça nourrira pas tout le monde.
Oui, mais ça veut dire quelque chose, parce qu'il y a par exemple ce retour
On a regardé en 10 ans comment a évolué l'alimentation des Franciliens, et en effet, en 2007, les Franciliens mangeaient plus de fruits, plus de légumes. Là, en 2016, c'est eux qui mangent le plus de sandwichs, ça a été multiplié par deux. Ouais. La consommation de pizza a été multipliée par deux. Ceux qui mangent le mieux, ce sont ceux qui sont dans la troisième couronne. C'est ceux qui sont plus éloignés du centre de Paris. Et à Paris, on a pourtant des gens très, très éduqués, mais ils mangent de plus en plus à l'extérieur. Un repas sur quatre est fait à l'extérieur.
Ouais. Le meilleur côtoie le pire en France, hein, de toute façon, Perico Legas.
Donc, la solution, nous le savons tous, elle est, comme pour l'analphabétisme et l'illettrisme, à l'école. Ouais. Voilà, il faut qu'il y ait, et Jean-Michel Blanquer est attentif à cette, je ne sais pas s'il fera des miracles, mais il a reçu les gens qui sont concernés par le problème. On a inventé, M. Jacques Puzet, il y a 50 ans, les classes du goût. Aujourd'hui, à l'époque, tout le monde savait, nous savions manger, nous savions reconnaître un poisson, d'un légume. Il faut aujourd'hui réapprendre, peut-être à écrire, à lire et à compter, il faut surtout apprendre aux consommateurs de demain, que sont les élèves d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur... Consommer en général, déjà pour préserver l'environnement de cette planète, qu'est-ce qu'on achète, et surtout, comment on mange. Réapprendre à manger, réapprendre à se nourrir, réapprendre à consommer. C'est fondamental, et ça doit rentrer dans les programmes de l'éducation nationale.
Ben non,
c'est une nécessité, c'est une nécessité nationale urgente.
Oui, bien sûr.
Oui, vous parliez, Péricot, du Japon, donc la vertu du manger cru.
Oui.
Le Japon qui est quatrième dans ce classement, donc juste derrière, oui. C'est bien. Quelles sont les vertus du manger cru, Arnaud Cocolle?
Arnaud Cocolle,
c'est
la mastication, tout de suite.
Déjà.
C'est la mastication.
La mastication, c'est extrêmement important, parce que vous devez broyer vraiment et prendre du temps pour avaler. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le bol alimentaire avant d'être avalé, et ce qui prépare déjà le tube digestif à recevoir l'alimentation. Et votre cerveau est connecté à votre tube digestif inversement, donc en temps réel, vous arrivez à ajuster parfaitement votre apport calorique.
Voilà.
C'est-à-dire, dès lors que vous mâchez. Et le problème, moi j'ai bon nombre de patients en France, c'est un autre problème également, passé l'âge de 50 ans, il y a pratiquement un patient sur deux qui a un manque dentaire. Donc le capital dentaire
est
défectueux.
Parce qu'on est devenu totalement paresseux.
Et ça coûte une fortune. Faire un implant, c'est 3000 euros. Donc c'est l'un des problèmes aussi, j'ai de plus en plus de patients qui me disent « je gobe parce que je n'ai pas suffisamment de molaires ». Donc ils n'arrivent pas à mâcher, donc ils vont vers de l'alimentation molle.
Incroyable.
Mais oui, mais quand on fait cuire, on peut tuer des bactéries en faisant...
Ah ça c'est le côté santé. Mais en tout cas, la mastication, elle est redoublée.
Aussi,
voilà,
hein,
quand le légume ou quand la viande est crue, sauf le tartare que vous aimez tant, là c'est déjà mastiqué.
Donc, voilà. Les crudités qui tombent en désuétude et qui font partie de la mâche.
Mais
la mastication.
Notre civilisation est confrontée, l'obésité, une des sources, c'est la sédentarité. Nous sommes aujourd'hui transportés, ascenseurs, transports en commun. Autrefois, on faisait tout à pied et souvent dans le froid. Donc, notre confort de transport, notre confort de bien-être fait qu'on, le corps humain s'habitue à ne rien faire. Et cette inaction est source de maladies et de dysfonctionnements. Ça, c'est...
Éduquer à la bonne alimentation. Je vais vous faire réagir, Pascal Hébel, dans un instant. Arnaud Cocolle, Péricot Léga sont avec nous. On va vous donner le résultat d'une consultation Facebook sur le sujet. Preuve qu'évidemment, ce que nous mangeons vous passionne, mais encore faut-il bien manger, en connaître les codes. À tout de suite. Les codes parfois très logiques, finalement, qu'on a oubliés. A tout de suite et jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On en vient à notre consultation sur Facebook. La question c'était, selon vous, la nourriture a-t-elle un réel impact sur notre santé? Oui, à 96%. C'est énorme, il y a eu beaucoup de votes en plus. Alors, quelques commentaires. Ce qui est rassurant, nous dit Sylvius, c'est que 96% des personnes sondées ont répondu oui, donc impact sur notre santé. Maintenant, il faut changer nos habitudes. Acheter au marché auprès des petits producteurs locaux coûte souvent moins cher qu'en hypermarché. Il faut réapprendre à cuisiner soi-même et bannir les boissons sucrées. La malbouffe n'est pas forcément un problème d'argent. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est Fatia. Pour être en bonne santé, il faut de la bonne nourriture. La santé est dans notre assiette. Une assiette qui coûte de plus en plus cher.
Oui, mais je rebondis là-dessus, parce qu'elle est belle, Péricot Léga, Arnaud Cocolle. La malbouffe n'est ni un problème de riche, ni un problème de pauvre,
non,
en réalité.
C'est vraiment une différence qui est liée à la connaissance.
Oui.
Et donc on voit que ce n'est pas du tout une question de revenus, c'est plus une question de niveau de diplôme. Et notamment par rapport à tous les messages qu'on a donnés, qui datent d'une quinzaine d'années, ceux qui ont mis en application, ce sont que les catégories très éduquées, en fait. Hein, et les autres ont d'autres problèmes. Et donc, on voit bien que ça a bougé, notamment la baisse de consommation de soda qui s'est faite dans les catégories les plus aisées et qui ne s'est pas faite dans les autres catégories. Et c'est vrai qu'en termes de budget, on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, consommer moins de viande va permettre de consommer mieux. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est toujours dans les mêmes catégories qui, elles, se préoccupent beaucoup de ce qu'elles mangent et ce qui ne va pas être le cas des autres. Donc, c'est une question d'explication et finalement de bon sens qui ne se fait pas nécessairement et qui va vers la facilité. Hein. C'est sûr que dans les foyers les plus modestes, on n'a plus d'ustensiles pour faire la cuisine. On fait un petit peu comme dans d'autres pays où on importe tout. On utilise le service sur ces produits-là.
Alors que souvent, les produits surgelés, congelés, préparés, coûtent plus cher qu'un produit fait à la maison. C'est une question de temps aussi, on l'a bien compris, Péricot.
J'en suis arrivé à une conclusion un peu catégorique. Bien manger ne coûte pas cher, mal manger coûte très cher. La facture...
Y compris en facture pour de santé.
Alors déjà, quand on voit au poids, par exemple, le prix des produits industriels, quand on se dit à l'achat c'est moins cher, ce n'est pas vrai. Et ensuite la facture, la valeur négative. la conséquence médicale environnementale est absolument tragique. Je constate que les bien-mangeants, le parti des bien-mangeants est le premier parti de France, 96%. Oui. Je propose qu'Arnaud Coquol soit candidat à la présidence de la République pour être élu au premier tour. Je me réjouis que nos concitoyens...
Je vous prends comme Premier ministre.
Je vote pour ce tandem demain.
Et je me réjouis que nos concitoyens, alors que longtemps nous sommes tous passés un peu pas pour des hurluberlus, mais bon d'accord, la malbouffe, tout ça, c'était... aujourd'hui c'est une vraie préoccupation. Dans le grand débat, ça apparaît un petit peu. Il y a eu les états généraux, je l'ai dit tout à l'heure, de l'alimentation. Les pouvoirs publics et la société commencent à prendre conscience qu'on pourrait... Imaginez qu'on se remette tous à consommer de façon un petit peu raisonnée, naturelle. Que l'on refasse des paysans. Que l'on remette dans notre assiette des produits qui engendrent une richesse économique avec des activités. Mais la conséquence, elle serait évidemment sur l'environnement, notre santé, et donc le bien-être de vivre en France. Et il y aurait des conséquences économiques énormes. Le contenu de nos assiettes peut réduire le chômage. Et peut rétablir une espèce de paix et de cohésion sociale.
Le pouvoir est dans l'assiette, c'est ce que dira aussi dans un instant Hugo Clément, mais lui qui a fait le choix autre de végétarisme. Mais regardez quand vous prenez des initiatives et puis des allers-retours. Vous aviez dû sursauter Arnaud Coquol lorsque dans les écoles, on avait mis des distributeurs, et j'en avais été témoin, élèves automatiques de boissons, de barres chocolatées dégueulasses, là, payantes évidemment, mais dans les collèges, dans les lycées.
Oui, tout ça pour
le gouvernement est revenu en arrière en 2005, a interdit tout ça.
Tout à fait, et ça c'était pour créer en fait une collation. Donc, que l'agroalimentaire aime beaucoup, parce que ce que l'agroalimentaire aime beaucoup en France, c'est d'essayer d'instaurer le snacking.
Ah bah vous
le snacking, c'est le grignotage. Mmh. Donc, c'est faire des collations qui n'ont pas de justification après tout, sauf pour les gens qui sautent les repas. Donc, à une espèce d'anarchie alimentaire avec une perfusion d'aliments en permanence dans votre corps. Donc, c'est-à-dire que votre tube digestif n'est jamais au repos.
Donc, vous vouliez des élèves au taquet, bien sucrés, vitaminés, et vous leur permettiez de se procurer ces barres chocolatées, par exemple.
Bon nombre d'élèves qui arrivent le ventre vide à l'école, quand vous les interrogez, vous leur demandez, ils sont levés à la dernière minute parce qu'ils sont complètement crevés, et en fait, ils se couchent à pas d'heure. Le sommeil aussi, ça c'est un problème fondamental, est en train d'être rogné de plus en plus. Actuellement, je crois que c'est 20 minutes de moins d'il y a 10 ans
à peu près. Mais qui peut être lié aussi à une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil.
Ah ben oui, le manque de sommeil de toute façon, ou le fait de dormir en horaire décalé, c'est-à-dire à 1h du matin par exemple, ça va vous faire prendre du poids par des actions hormonales.
D'accord. Et puisque vous parliez des repas, des petits déjeuners, on a de plus en plus d'enfants qui arrivent le ventre vide à l'école. 20% des élèves.
Ou alors gavés de céréales sucrées américaines. J'ai rien contre la céréale en principe, on en a parlé. Mais alors, je ne vais pas citer la marque, mais on la connaît tous. C'est une bombe atomique dans l'organisme. Ce n'est pas moi à le dire, mais je pense que le médecin le confirmera. Voilà, revenons au bon petit déjeuner à la française avec la tartine de pain frais, un peu de beurre. Voilà. Oui. C'est infiniment meilleur que. Voilà, ça,
Et du pain complet de préférence, c'est ça?
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a bon nombre de gens qui pensent bien faire et qui achètent des céréales où c'est marqué en gros riche en vitamine PP, ils ne savent même pas à quoi ça sert, riche en vitamine B6, etc. Mais par contre, les nutriments essentiels dont on parle, c'est-à-dire les fibres, l'apport en calcium et la diminution en sel, ne sont pas présentes dans ces céréales. Donc, il y a un vrai problème.
On se fait une petite pause, chers amis, on y revient juste après. J'aimerais qu'on parle un peu plus précisément du petit déjeuner, autre repas essentiel, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Pascal et Belle, cette fameuse entrée sur laquelle on passe et qui pourtant procure un sentiment de satiété qui permet de moins manger au final, de rationner son repas, le petit déjeuner. En question, à tout de suite, au cœur de cette réflexion sur la malbouffe ou mauvaise alimentation, en tout cas jusqu'à 11h.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Allez, on va se retrouver après la musique. On écoute ce duo, Mark Ronson et Miley Cyrus. Mark Ronson et Miley Cyrus.
Europe 1.
J'ai dit les deux, comme ça vous choisissez, hein, d'accord.
Moi, je sais pas, il n'y a que l'alimentation qui m'intéresse.
Et ça vaut pas le petit vin blanc. Hein,
ni on est foutu, on mange trop d'Alain Souchon. Voilà. Merci, chers amis, d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous parlons de la malbouffe et de l'urgence de modifier nos habitudes avec cette grande étude parue mercredi dans la revue médicale britannique The Lancet. La France classée 3e derrière Espagne et Israël. L'Espagne et l'Israël sur son rapport à l'alimentation. On en parle avec Perico Legas, chroniqueur gastronomique, rédacteur en chef à Marianne, Pascal Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, et Arnaud Coquol, médecin nutritionniste attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Juste avant cette petite pause musicale, nous évoquions l'un des repas importants de la journée, le fameux petit déjeuner. Est-il si important qu'on le dit aujourd'hui, Arnaud Coquol?
Ben, ça dépend. Moi, j'ai des patients qui n'ont pas besoin de petit déjeuner parce qu'ils peuvent avoir un équilibre alimentaire correct sur deux repas. Et il y en a d'autres, par contre, qui sont obligés de fractionner. Donc, il y en a qui doivent manger 3 fois, d'autres 4 fois. On voit même des diabétiques qui peuvent faire 6 repas, en fait. Il y a 3 collations et 3 repas principaux. Donc, en fait, on voit toutes sortes de profils de mangeurs. Mais je dirais que pour un enfant, en tout cas, le petit déjeuner me paraît essentiel. Parce que c'est le plein de nutriments. Et donc, ça lui permet d'avoir un coup de booster avant de partir à l'école. Et d'éviter le coup de barre qui a lieu vers 11h, où il y a généralement les cours de mathématiques que plus aucun élève n'écoute après.
Ouais, avant la pause d'11h30 pour les primaires et un peu plus tardif pour les collégiens et les lycéens, 20% des enfants ne prendraient pas de petit déjeuner tous les jours. C'est ce que traduit une enquête à l'école. Et c'est préoccupant. Beaucoup de professeurs, d'ailleurs, distribuent aujourd'hui des instituteurs, des collations pour ces élèves qui sentent un peu défaillir.
Oui, tout à fait. On a mesuré qu'en 2003, on était à simplement 10% des enfants qui ne prenait pas tous les jours un petit déjeuner, et en 2013, c'est en effet 20%. C'est une conséquence de la crise économique, et en fait, ce sont dans les foyers les plus modestes qu'on se fait sauter le petit déjeuner. Oui. Pourquoi ? Parce que quand on a moins d'argent, on considère que c'est un repas qui est moins important que le dîner, et on considère qu'il est plus cher, parce qu'en effet, acheter des produits sucrés coûte beaucoup plus cher. Et donc, ça a eu une conséquence très forte, parce qu'au moment où on avait empêché les instituteurs de faire la pause de 10 heures, souvenez-vous, on distribuait à 10 heures du lait, notamment, et on a l'ANSES a fait un décret en disant non, il ne faut plus distribuer de pause de collation à 10 heures pour des raisons d'obésité. Et la conséquence, c'est que les instituteurs se sont retrouvés avec des enfants qui arrivaient le ventre vide et qui n'avaient pas bu. C'est très important parce que ne pas s'hydrater,
depuis la veille au soir,
ça a des conséquences sur
le fonctionnement du cerveau.
Et en effet, il y avait des malaises, en fait. Instituteurs nous ont dit que les enfants n'arrivaient pas à suivre, avaient mal au ventre, ils étaient obligés de les emmener à l'infirmerie. Et donc là, les instituteurs ont pris des méthodes pour remettre des petits déjeuners. Et donc là, le président Macron, à partir de la rentrée de 2018, a instauré des petits déjeuners à l'école, en arrivant, pour ceux qui arrivaient le ventre vide. Et heureusement, parce que c'est très difficile pour un enfant de pas avoir bu jusqu'à 11h du matin. Et ça avait des conséquences sur la tension, mais pas que.
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, Perrine Collégas.
Absence de petit déjeuner, et je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, le plus souvent aggravée par les enfants devant l'écran de télévision avec les émissions pour enfants le matin.
Le matin.
Donc ils arrivent à l'école, et ça les enseignants se voient. Ils le voient à la pupille dilatée. Et donc les gosses ont vu un dessin animé ou une série étrangère, mais, et ils sont, les 2 premières heures de cours, ils sont rivés sur l'image qu'ils ont vue à la télévision. Donc inattention et ventre vide. On explique une partie de l'échec scolaire par ce genre de dérive qui est absolument calamiteuse. Dans un pays civilisé comme le nôtre, ça ne devrait pas exister.
Le sens de l'éducation est exemplaire aussi sur le rapport à l'alimentation. On est en plein dans l'actualité avec ces cantines scolaires à 1 euro. Vous avez fait le tour et vous continuez de le faire, Perrine Collégas, pour un grand dossier que vous menez pour Marianne, des cantines scolaires. Vous avez vu des choses parfois hallucinantes d'ailleurs.
Alors d'abord les bonnes nouvelles. De plus en plus de municipalités remettent la cuisine intégrée avec un vrai cuisinier à la cantine. Deuxième étape, des produits locaux autant que faire possible.
Et de saison.
Et de saison, des produits frais. Pour ceux qui le peuvent, on passe 100% en bio et c'est en train de se multiplier.
De plus en plus.
Même si c'est dérisoire, c'est énorme. Et puis, il reste encore les mauvais élèves. Et j'étais l'autre jour dans une préfecture de France que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas les déshonorer. Et je vois dans mon enquête, il y avait au menu pizza industrielle et en dessert, une barre Mars. J'ai cru défaillir.
Cantine municipale ?
Cantine municipale. J'ai tout de suite rencontré le responsable qui, les bras ballants, me disait « Mais oui, mais c'est ce que les enfants exigent, c'est ce qu'ils mangent. » Et je lui dis « Si vous demandez de sortir à 14h30 pour rentrer à la maison, aller se promener, qu'est-ce que vous faites ?»« Ah mais non, c'est pas la même chose. » Je lui dis « C'est encore pire. » C'est encore pire. Donc vous cautionnez, vous rendez compte l'image que vous envoyez, et quand ils arrivent à la maison, voilà. Autant je connais tellement de cantines scolaires aujourd'hui où des enfants qui, paradoxalement, mangent mieux à la cantine qu'à la maison. Et certains cuisiniers, j'en ai coté un, je peux le dire, c'est au lycée de Bléré, en Indre-et-Loire. Le cuisinier, je le félicite, Sébastien Brun, fait une cuisine de produits de proximité avec un petit peu de gastronomie. C'est présenté comme au restaurant, les enfants sont ravis, il exige une tenue. Et les parents qui ne font plus la cuisine viennent, il fait même des cours. Et le samedi, maintenant, il a ouvert. Les gens peuvent venir à la cantine comme au restaurant, moyennant un forfait. Vous voyez, il y a une éducation gustative, une éducation culinaire, et ça fait partie de la pédagogie que l'éducation nationale doit transmettre. Mais c'est formidable parce que pendant l'instant du repas à l'école, ne confondons pas malbouffe et cantine scolaire, il y a les deux, mais Du coup, la cantine scolaire devient un instant de prise de conscience et de valorisation du contenu de l'assiette. C'est une démarche citoyenne et je trouve extrêmement responsable et extrêmement positive.
Arnaud Cocolle.
Mais il faut soigner l'enrobage aussi du repas. C'est-à-dire que les cantines scolaires sont beaucoup trop bruyantes. Il y a des enfants qui sortent, ils n'en peuvent plus parce que l'insonorisation est une catastrophe. Et le fait aussi qu'il y ait deux services. Donc ça fait qu'on presse les enfants. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, les enfants ont moins de temps pour manger et pour déguster. Donc ils sortent avec vraiment le ventre ballonné, etc. Ou l'impression d'avoir gobé leur alimentation.
Il faut le dire, pas encadré. Ils peuvent tout laisser dans leur assiette aussi.
Complètement.
Voilà. Et ça c'est un défaut aussi de personnel.
Oui, oui. Puis des jeunes qui se resservent, qui prennent l'assiette du voisin, etc. Ça, on connaît
le
problème.
Je cite un autre exemple positif. Mairie de Moinsartou, Monsieur Ascheri et Gilles Pérol qui est l'adjoint.
Oui.
Ils ont la municipalité a acheté un terrain qui était une résidence secondaire, transformé en potager de 4 hectares. Et aujourd'hui, ce potager bio, cultivé par des employés municipaux, alimente les cantines scolaires et quelques maisons de retraite. Le niveau nutritionnel est absolument impeccable. Pédagogie des enfants qui peuvent aller voir le potager, donc redécouvre le goût des légumes et voient ce que c'est. Donc c'est
énorme.
Et gaspillage réduit à quasiment à zéro. J'y étais, j'ai fait un tournage là-bas. Je rappelle, Wendy, juste, je fais pas ma promo. Ma deuxième activité, c'est l'émission Manger, c'est voter.
Sur Public Sénat.
Voilà,
c'est quelque chose,
Manger, c'est voter. Voilà, j'ai compris aujourd'hui que l'acte alimentaire est un acte politique et social. Voilà. Donc cette cantine de Moinsartou, potager municipal 100% bio, pas de gaspillage, les enfants sont bien nourris et ils rentrent à la maison et les parents du coup se mettent à faire de la cuisine avec des légumes frais puisqu'on a envie de prolonger l'action de la cantine scolaire.
Et c'est tant mieux, il faut ce genre de modèle alors qu'un jeune Français sur 5 est en surpoids et que les mauvaises habitudes alimentaires se répandent dans cette catégorie. Les 15-25 ans, on va y venir avec vous Pascal Hébel, du Crédoc. Merci d'être avec nous toujours Arnaud Cocolle, Perico Légas. Grand tour de la question jusqu'à 11h sur cette valeur alimentaire.
Aider les jeunes à sortir de la malbouffe, quels sont les principaux dangers auxquels s'exposent les Français en matière d'alimentation? Toutes ces questions, ben on en fait le tour jusqu'à 10h et même 11h, on va prolonger aujourd'hui.
Absolument.
Avec Wendy Bouchard.
C'est un sujet qui le mérite. Pascal Hébel, je vais vous faire réagir à cette étude Ipsos, les 15-25 ans avec des mauvaises habitudes alimentaires qui se répandent dans cette catégorie d'âge. Et pourtant, on verra qu'il y a aussi beaucoup de ces jeunes qui font le choix du végétarisme, de la préoccupation aussi environnementale. Mais vous l'avez constaté aussi, ce relâchement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une génération qui, par rapport à la génération précédente au même âge, est beaucoup plus préoccupée à la fois par la nutrition, par le bien-être animal, donc qui, en termes d'attitude, aurait envie de manger mieux. Mais par contre, c'est le fait qu'ils passent beaucoup, beaucoup de temps sur les écrans. On l'a dit, ça va peser sur le sommeil et ils vont passer moins de temps, ils vont faire moins attention à ce qu'ils mangent, à mâcher. Et en effet, on voit qu'ils mangent un peu comme les Américains, de plus en plus liquide.
Oui,
ça, c'est un vrai problème.
Hein,
c'est-à-dire qu'en fait, en buvant plus de sucré, évidemment, ça ne donne pas d'effet de satiété et ce n'est pas bon pour l'organisme. Donc ça, et puis, en effet, on l'a beaucoup dit, ils mâchent moins et surtout, c'est les fruits et les légumes. Hein. Il y a vraiment une baisse très, très forte de consommation de fruits, de légumes. Quand on mange à l'extérieur, il n'y a pas d'offre de fruits.
Oui.
Et donc, le fruit est en train de disparaître chez les jeunes générations.
Le soda, c'est un fléau pour les jeunes aujourd'hui, Arnaud Cocolle.
Oui, mais on n'est pas américain non plus, parce qu'aux États-Unis, ils ont une consommation abusive de boissons sucrées.
Ah oui, parce vous avez des jeunes qui perdent leurs dents à 18 ans parce qu'ils sont biberonnés assez...
Au Mexique, les baptêmes se font avec la boisson américaine célèbre et cette boisson coûte moins cher que l'eau.
Voilà.
Donc, il y a des problèmes. Donc en France, on est quand même éloigné de ça. Et je pense que dans le nouveau programme, également les nouvelles injonctions qui sont sorties, mettre par exemple les boissons, les jus de fruits dedans, dans l'amalgame avec les boissons sucrées, je pense que c'est un mauvais signal pour certaines personnes. Évidemment qu'il ne faut pas surconsommer les jus de fruits parce que ça peut être abusif. Il y a du sucre, du fruit qui est naturellement présent. Mais il ne faut pas non plus que le signal soit les jus de fruits sont pareils que les sodas.
Ah oui,
à mon avis,
c'est une manière aussi
chose.
Pour les jeunes de manger des fruits.
Bah,
un jus d'orange, ce n'est pas du soda.
Ouais. Et je rajouterais également, je pense que le programme national nutrition santé, on s'est planté un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait un message universel pour toute la population, comme si 67 millions de Français mangeaient de la même manière et étaient originaires de la même ethnie. Donc la France est multiethnique, on ne doit pas parler pareil aux différentes personnes. Et moi je prône, comme dans les études américaines, qu'il y ait des études qui soient faites selon l'origine ethnique. Non pas pour une stigmatisation, mais pour avoir des messages qui soient plus adaptés à ces tranches de population. Et là, on est complètement en retard par rapport aux Américains là-dessus.
20 secondes avant la pause.
C'est ce que j'appelle la civilisation du moudou. le hamburger...
Le mou est doux.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne mastique plus et c'est sucré. Mmh. Autrement dit, retour à l'enfance.
C'est ça.
Des saveurs faciles. Mmh. Pour revenir sur une statistique, il y en avait une en 2012, celle de l'INSEE, 87% des 12-17 ans ne faisaient pas la différence entre une carotte et une courgette, entre un chou-fleur et une salade.
12-17
ans. 87% ne savaient pas que le yaourt venait d'un produit qui s'appelle le lait,
oh là là,
et ne savaient pas que la tranche de jambon qu'ils avaient venait d'un aliment qui s'appelle le cochon.
Ah, vous avez du boulot.
Beaucoup, beaucoup de travail pédagogique, mais j'ai l'impression qu'on est en train de reconquérir quelques...
Mais Michelle Obama avait fait ça aux États-Unis avec Let's Move, son mouvement, et on avait des surprises, parce que par exemple, les patates frites étaient assimilées à des légumes pour les Américains.
Tout à fait. Et voilà. Il pensait que le chocolat venait d'une vache marron.
C'est pas le 1er avril tous les jours.
Non,
les
amis. Voilà.
Perico, les gars, Sarno Cocolle, vous restez encore avec nous quelques instants. Je vous libère, chère Pascale Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Merci pour votre éclairage, votre expertise. Avant d'accueillir Katia Raffarin qui publie Au secours, mon ado est végétarien, qui parlera à beaucoup de parents dont vous êtes peut-être. Et Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux. A tout de suite sur Europe 1, on prolonge la réflexion.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.